Les conférences du Collège de France.
Donc je voudrais introduire évidemment notre invité, le professeur Daniel Lieberman, le plus brièvement possible, et puis surtout vous dire pourquoi en fait je l'ai invité au Collège de France. Donc le professeur Lieberman est une personnalité très connue hein, dans le monde de la paléanthropologie et de l'anthropologie biologique. Il a fait ses études à Cambridge, au Royaume-Uni, et à Harvard, où il a obtenu son PhD. Ensuite, il a travaillé dans différentes universités aux États-Unis, avant de devenir professeur d'anthropologie à Harvard, après avoir été assistant et associé de professeur dans cette université. Donc depuis 2001, il est titulaire d'une chaire d'anthropologie à l'université d'Harvard. Et pendant de nombreuses années, une dizaine d'années, il a été chair, président du département de biologie humaine évolutionnaire. Vous allez voir, il y a un petit débat entre évolutionnaires, évolutionnistes, qui reste ouvert. Alors bon, il a fait un très grand nombre de publications, que je ne vais pas citer, mais surtout depuis quelques années, il s'est fait connaître par des ouvrages qui sont destinés pas seulement à la communauté scientifique, mais aussi au grand public, et donc qui ont été vraiment des best-sellers. Donc ça a commencé par un ouvrage qui s'appelait « The Evolution of Head ». Je crois que j'étais à Harvard quand il était en train, le matin, de travailler sur son, sur son manuscrit de l'évolution de la tête humaine. Et puis, il s'est beaucoup intéressé, ça va être un des sujets de ses conférences, à la question de la course, particulièrement de la course d'endurance. Et je pense que pour beaucoup, beaucoup de gens dans la communauté paléanthropologique, il est connu donc, pour l'hypothèse qu'il a posée, suivant laquelle, dans le fond, les êtres humains, fondamentalement, sont adaptés à la course d'endurance et que ça a été pour eux un moyen de changer de niche écologique il y a peut-être 2 millions d'années ou plus, hein, quand on est passé à des représentants du genre homo qui étaient consommateurs de viande et coureurs d'endurance. Et donc évidemment, comme il s'est intéressé à ces questions-là, immédiatement, il a attiré l'attention des gens qui étaient des coureurs, des marathoniens. D'ailleurs, lui-même est un marathonien. Il fait le tour de la planète pour participer à tous les marathons qu'il peut trouver. Et donc, évidemment, tout ça, ça l'a amené à produire de nouveaux ouvrages, en particulier des ouvrages sur l'évolution du corps humain en général. Et un ouvrage qui s'appelle Exercise, qui a été publié en anglais, qui est vraiment un ouvrage sur l'activité physique. Alors, bon, je pense que tout ce que je viens de vous dire, vous le savez déjà plus ou moins, puisque vous êtes ici. Mais je voudrais maintenant dire juste un mot à propos de, dans le fond, pourquoi, alors évidemment, indépendamment de sa notoriété, pourquoi j'ai voulu inviter Dan Lieberman pour cette série de conférences. Alors d'abord parce que c'est quelqu'un que je respecte profondément sur le plan scientifique, et en plus c'est un véritable ami. Donc ça compte quand même dans les relations à l'intérieur de la profession. Et donc je suis vraiment heureux qu'il soit avec nous à Paris pour un petit peu plus d'un mois. Et puis surtout parce qu'il représente pour moi quelque chose qui est vraiment essentiel dans les travaux sur l'évolution humaine. J'ai un collègue espagnol qui a écrit un jour dans un article, je pense que peut-être qu'il regrette de l'avoir écrit, que pour être un bon paléanthropologue, il fallait savoir raconter des histoires, être un good storyteller. Et malheureusement, je pense que c'est un des travers de la paléanthropologie. C'est-à-dire qu'elle est très tournée vers des découvertes de fossiles et puis vers les histoires que l'on peut raconter autour de ces découvertes. Et un certain nombre de mes collègues, je me garderai bien de citer des noms, ont bâti leur notoriété sur soit des découvertes de fossiles, soit un storytelling autour de ces fossiles. Évidemment, vous savez, la grosse différence entre envoyer des fusées vers la planète Mars et raconter des histoires sur l'évolution humaine, c'est que si vous racontez n'importe quoi sur l'évolution humaine, il ne va rien arriver. Mais si vous envoyez des fusées et que vous faites n'importe quoi, à 100 mètres du sol, la fusée explose et donc vous aurez très peu de chances d'avoir à renvoyer une seconde fusée. Et donc, le gros problème de la paléoanthropologie, de mon point de vue, c'est la reproductibilité des données. Alors, il y a une certaine forme de reproductibilité des données. Pourquoi ? Parce que, ou des résultats. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, quand il y a des résultats qui ne collent pas avec les découvertes qui suivent, peu à peu, on glisse la poussière sous le tapis et puis on ne parle plus trop de ces travaux. Et là où le travail de Dan Lieberman tranche vraiment sur ce qui est généralement fait dans le domaine de l'évolution humaine, c'est que lui, il a une approche réellement expérimentale. Et depuis de nombreuses années, évidemment, je suis ce qu'il fait. Alors, il a failli mal tourner. Hein. Je ne vous ai pas cité ses premières publications, mais c'était quand même des histoires de crânes fossiles, de séments sur les dents, de choses comme ça. Mais en fait, quand il a commencé à installer son équipe à Harvard, très très vite, il s'est tourné vers de l'expérimentation. Voilà, il faisait courir des petits cochons sur des tapis roulants, il nourrissait des animaux avec des croquettes pour chiens passées au micro-ondes ou pas, etc., avec l'idée d'observer, dans le fond, les résultats de ses comportements sur la façon dont le squelette pouvait être modelé ou remodelé. Et donc, il a produit une quantité de résultats qui, de mon point de vue, sont absolument essentiels pour comprendre, en fait, l'évolution humaine. Et ces résultats, eh bien, sont des résultats expérimentaux qui sont reproductibles ou qui ne sont pas reproductibles. Et donc, s'ils ne sont pas reproductibles, quelqu'un peut montrer qu'ils ne sont pas valides. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de la fusée qui part vers la planète Mars que de raconter des histoires, même si elles sont très belles, sur l'évolution humaine. Et je pense que pendant ces quatre conférences qu'il va nous présenter, eh bien, vous allez comprendre ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire cette approche qui permet de mettre en relation des données expérimentales, des résultats dans le domaine de la biologie, de la physiologie humaine, de l'économie, de l'énergie, par exemple, et puis ce que l'on peut observer dans le registre fossile et dans les mécanismes de l'évolution humaine. Et donc, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, et je vais la laisser à Daniel, qui va commencer par sa première conférence aujourd'hui, donc qui est une introduction à la médecine, alors, moi je dirais plutôt évolutionnaire, mais évolutionniste. À toi.
Merci. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'introduction. Et merci spécialement Jean-Jacques et au Collège de France de m'avoir invité. Je suis très, très honoré d'être ici et pour parler d'un sujet qui me passionne. Est-ce qu'on peut... Vous pouvez m'entendre? Oui? OK. Comment appliquer l'évolution aux problèmes de santé et de maladie? Et avant que je d'aller plus loin, je vous prie d'excuser mon français pauvre. Il y a 43 ans que j'ai étudié français au lycée. Je ferai de mon mieux, mais je ne suis pas parfait. Et quand je donne des conférences en anglais, il faut dire que j'aime faire des blagues, etc. Mais je ne suis pas sûr que je puisse le faire aujourd'hui, surtout sans quelques verres de vin. Maybe, peut-être la semaine prochaine, je peux avoir du vin d'abord. Et aussi, pendant les questions après ma présentation, n'hésitez pas à m'aider parce que j'en aurai probablement besoin. Mais, OK, on commence. Quelques mots sur moi après l'introduction de professeur Aublin, mais comme vous avez entendu, je suis professeur à Harvard. J'étudie pourquoi le corps humain est comme il est et ce que cette histoire évolutive signifie pour la santé. Je travaille surtout sur l'activité physique, mais aussi sur l'alimentation. Et on dit de moi que je suis une touche-à-tout. Mon travail mélange trois domaines, l'anatomie et la paléontologie, le travail de terrain avec mes étudiants au Rwanda, au Kenya et au Mexique, et enfin, comme le professeur Houblin a dit, des expériences de physiologie et de biomécanique chez mon labo à Harvard. Et vous pouvez voir que nous avons... je ne suis pas sûr ce qui est arrivé à la tête de cet homme, mais bon, ça arrive dans le labo. OK. Cette conférence est la première d'une série de quatre. Et aujourd'hui, c'est un peu théorique. J'introduis les idées principales de la médecine évolutionniste. Et le 4 octobre, je parlerai de l'alimentation. Le 21 octobre, d'exercice. Et le 31 octobre, d'obésité. OK. Et beaucoup de ce que je vais présenter vient de mes livres, « L'histoire du corps humain », qu'on peut lire en français, Exercised, qui n'est pas en français encore, et un nouveau livre qui sortira l'an prochain, Gavé, je pense que ça c'est la traduction, Gavé, l'histoire et la science de l'alimentation et des régimes. OK, commençons. J'appelle la médecine évolutionniste l'application de la théorie et des données de l'évolution à la santé, à la maladie. C'est un domaine jeune, encore très peu enseigné dans les facultés de médecine. Certes, la médecine évolutionniste est une discipline récente, mais le premier chercheur à reconnaître l'importance de l'évolution pour la médecine fut peut-être le grand-père de Charles Darwin, Erasmus. On dit Erasme. Ça, en français, Erasme. C'est difficile à dire. Erasme Darwin, médecin qui écrivait également sur l'évolution, inspira ainsi son petit-fils. Et en 1794, il écrivit un livre vraiment très étrange, au vers affreux, terrible. On peut le lire sur l'Internet. Qui s'appelle Zoonomia. Selon ses propres termes, et je vais traduire, le but des pages suivantes est de tenter de réduire les faits appartenant à la vie animale en classes, ordres, genres et espèces, et en les comparant les uns aux autres, de démêler la théorie des maladies. Comme vous le savez peut-être, Charles Darwin a d'abord étudié la médecine, mais il a détesté cette discipline et a abandonné ses études au bout d'un an pour étudier la théologie à l'Université de Cambridge. De même que l'évolution n'était pas enseignée aux étudiants en médecine à l'époque de Darwin, le médecin évolutionniste n'est pas enseigné non plus à la plupart des étudiants de médecine aujourd'hui. Mais pour moi, c'est dommage, car comme disait le généticien célèbre Theodosius Dobzhansky, c'est lui ici. Rien en biologie n'a de sens sauf à la lumière de l'évolution. Et j'aimerais ajouter, rien en biologie, y compris la médecine, n'a de sens sauf à la lumière de l'évolution. Pourquoi? C'est parce que la biologie classique explique surtout comment les choses fonctionnent. Les gènes, les cellules, les mécanismes. Mais nous ne sommes pas des machines conçues ou fabriquées. Nous avons évolué. Alors, pour comprendre pourquoi ces mécanismes existent, demande de remonter à l'histoire évolutive qui les a façonnés. Prenons un exemple, le cancer du sein. C'est une cause majeure de mortalité chez les femmes, même avec les progrès de dépistage. Pourquoi son incidence est-elle trois fois plus élevée dans les pays riches comme la France? Et une augmentation, comme vous pouvez voir ici dans la ligne rouge. Oui, c'est aussi la même chose pour les États-Unis. Pourquoi devient-il rapidement plus fréquent dans les pays à revenus intermédiaires qui s'enrichissent, la ligne bleue ici, oui. Et pourquoi reste-t-il rare dans les pays à faible revenu, la ligne brune ici, oui. OK. Aujourd'hui, la médecine se concentre sur tous les dépistages précoces puis sur le traitement. Tuer les cellules cancéreuses avec la chimiothérapie avec d'autres méthodes. Mais très rarement, les docteurs, ou même, bien sûr les patients, on pense au cancer du sein sous un angle évolutionniste. Et pour moi, c'est une erreur. Parce qu'il faut dire que le cancer est avant tout un processus de la sélection naturelle à l'intérieur du corps. Les cellules qui mutent pour se multiplier plus vite et coopérer moins bien que les autres deviennent dangereuses. Éventuellement, elles peuvent entraîner la mort. Et nos traitements, comme la chimiothérapie, peuvent parfois aggraver les choses. Ils éliminent les cellules sensibles, mais laissent la place aux cellules résistantes. Exactement comme les antibiotiques favorisent parfois les bactéries résistantes. J'y reviendrai plus tard, mais je veux souligner une chose. Nous parlons trop peu de prévention. Comme presque tout dans le corps, les maladies viennent des interactions entre les gènes et l'environnement. Nos gènes changent très lentement, mais la culture et la technologie changent très vite notre environnement, souvent d'une manière qui favorise les cancers. Pour le cancer du sein, les principaux facteurs de risque environnementaux sont l'obésité, l'inactivité physique, certains cancérigènes, le nombre de cycles menstruels et plus. De nombreuses études montrent, par exemple, et nous parlerons plus tard de ce phénomène, que les femmes plus actives physiquement ont moins de cancer du sein. Cette diapo montre les données d'une étude très grande, le Aerobic Center Longitudinal Study de Texas, qui a suivi quelques milliers de femmes pour beaucoup d'années. Comme vous pouvez voir, ils ont trouvé que les femmes avec un niveau d'activité élevé ont environ 40%, c'est énorme, en moins de cancer du sein. Pourquoi? Et pourquoi si peu de gens le savent? J'espère avoir votre attention avec ces données. Mon argument aujourd'hui et dans mes prochaines conférences est simple. En utilisant la théorie de l'évolution, nous pouvons améliorer la santé. Aujourd'hui, je vais rappeler brièvement la théorie de l'évolution et de présenter 8 principes importants. Et dans les lectures suivantes, nous allons voir comment les appliquer à l'alimentation, à l'exercice et à l'obésité. Aujourd'hui, nous parlerons, lorsque cela sera possible, du cancer du sein. Je vous prie d'excuser mon français. OK. Comme tout le monde ici n'est pas biologiste, rappelons vite ce que c'est l'évolution. En fait, à moi, ce sont 5 théories réunies. 1. Les espèces changent au cours du temps. Ce n'est pas très difficile à comprendre. 2. L'évolution se fait par descendance avec modification et contrairement à Lamarck, qui est statut de Lamarck pas loin d'ici, les organismes n'héritent pas de changements vécus au cours de leur vie, mais de variations transmises de génération en génération. 3. Les changements sont souvent lents et graduels dans les populations. 4. L'évolution peut produire de nouvelles espèces et tous les êtres vivants descendent d'un ancêtre commun. Et enfin, cinquièmement, la plus importante, la sélection naturelle. C'est celle dont je vais parler surtout aujourd'hui. La sélection naturelle est une idée très simple mais puissante. Elle repose sur 3 faits. D'abord, il y a variation entre les individus. Regardez autour de vous, chacun ici est différent. Ensuite, une partie de ces variations est héréditaire, transmise par les gènes. Et enfin, certains individus laissent plus de descendants que d'autres, souvent parce qu'ils réussissent mieux à obtenir des ressources limitées. Si les 3 conditions sont réunies, et elles le sont, alors leurs conséquences nécessaires est un succès reproducteur, différentiel et non aléatoire. Autrement dit, Dans une population, les individus qui possèdent des variations favorables ont davantage de chances de survivre et de se reproduire. Oui, c'est ça. C'est une idée tellement simple. Et dans l'origine des espèces, Charles Darwin a souligné que la sélection naturelle est comparable à la sélection artificielle. Les éleveurs de chiens, par exemple, favorisent certains traits héréditaires pour créer des nouvelles races. La seule différence entre la sélection naturelle et la sélection artificielle est que dans le premier cas, la nature remplace l'éleveur comme l'agent de sélection. C'est tout. Alors, c'est une théorie puissante et bien testée. Alors, comment appliquer ces idées à des maladies comme le cancer du sein? Pour y répondre, je vais présenter 8 grands principes. Certains sont particulièrement pertinents pour le cancer du sein. Okay, d'abord, le premier principe est que nous n'avons pas évolué pour être en bonne santé. Ça peut sembler bizarre, mais je pense que c'est vrai et je veux vous expliquer. Rappelons la sélection naturelle. Variation, hérédité, reproduction, c'est tout, oui. Elle favorise toujours ce qui augmente le succès reproductif. C'est difficile, oui. On dit en anglais « survival of the fittest », survie des plus aptes, je pense en français. Donc, nous n'avons pas évolué à être en bonne santé que dans la mesure où la santé aide à avoir plus d'enfants. C'est comme ça. Oui. Pour comprendre, pensons à l'énergie. Chaque organisme, nous ne sommes pas différents, dispose d'une quantité limitée d'énergie à répartir. Chez les humains, l'énergie sert à 5 fonctions principales. Grandir, entretenir le corps, stocker de la graisse, bouger et se reproduire. La sélection naturelle privilégie toujours la reproduction. Donc, si on peut économiser sur l'entretien ou l'activité pour investir dans la reproduction, c'est payant en termes évolutifs, oui, c'est simple. Un exemple très bien connu est l'obésité. Pourquoi sommes-nous si susceptibles à l'obésité malgré les problèmes de l'obésité? La réponse est que nous avons évolué pour stocker plus de graisse que la plupart des animaux. Le pourcentage de graisse corporelle dans les singes est rarement plus qu'à peu près 5%. Mais les femmes chasseurs-cueilleurs minces ont d'habitude entre 20 et 25% de graisse corporelle. Cette graisse corporelle est nécessaire pour la reproduction, surtout dans des environnements imprévisibles. Mais aujourd'hui, cela augmente beaucoup le risque de maladies chroniques, y compris de cancer. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres exemples de traits sélectionnés pour la reproduction, mais mauvais pour la santé. L'anxiété, l'attirance pour le sel et d'autres choses dont je préfère ne pas parler. C'est difficile d'être d'avare maintenant. OK. Mais nous sommes en train de lutter. OK. Lutter. Le deuxième principe, OK, est que les adaptations dépendent du contexte. Elles peuvent devenir des problèmes quand l'environnement change trop vite. C'est ce qu'on appelle en discordance. En anglais, on dit mismatch, discordance. Je pense que c'est le meilleur mot. Qu'est-ce que c'est qu'une adaptation d'abord? Pour les biologistes, c'est un trait nouveau qui a été sélectionné parce qu'il améliorait la reproduction. L'exemple classique sont les pinsons de Galapagos. Chaque espèce a un bec adapté à un type d'aliment précis, un bec court et fort pour casser des grains durs, un bec long et fin pour manger des fruits de cactus et des autres becs comme ça. Oui. Et quand le climat change, et dans les Galapagos, ça change souvent, la nourriture disponible change aussi. Alors, nous pouvons voir que la sélection dans les changements de climat favorise un autre type de bec. Quand il fait sec, sur les oiseaux capables de casser des grains durs survivent mieux. Et quand il fait humide, les becs fins sont avantagés. C'est ça, la sélection naturelle en action, et c'est bien testé dans le Galapagos. Et si vous avez la chance de visiter le Galapagos, c'est vaut le voyage, on dit, dans le guide Michelin. Oui. OK. Et cela crée des discordances. Je définis les discordances comme des conditions qui sont plus fréquentes ou plus graves parce que le corps est insuffisamment adapté aux nouvelles conditions environnementales. Les discordances sont une force majeure de l'évolution. C'est le sujet de mon livre « L'histoire du corps humain ». Prenons un exemple extrême et un peu bizarre, fait avec Photoshop. Oui. Les zèbres sont adaptés à consommer de l'herbe dans les climats tropicaux. Si vous transportiez un zèbre dans un habitat temporaire avec l'hiver, comme à Paris ou Boston, il serait en discordance. Oui, c'est pas vrai. Oui. Chez les humains aussi, cela arrive souvent. Le graphique à gauche, ici on peut voir, montre la température des océans au cours des 5 derniers millions d'années. Comme vous pouvez voir, oui, la Terre s'est refroidie avec de nombreuses fluctuations, chacun entraînant des changements environnementaux et donc des discordances. En outre, lorsque les humains ont migré hors d'Afrique, vers le reste du monde, les nouveaux environnements qu'ils sont rencontrés ont également provoqué beaucoup de discordances. On le voit encore aujourd'hui. Par exemple, la peau claire des Anglais et Écossais n'est pas adaptée au soleil australien. Oui, ça c'est le roi anglais. Et les descendants de ces gardiens anglaise en Australie a les taux de cancer de la peau les plus élevés du monde. Moi, je distingue trois grands types de discordance. Première catégorie, trop de stimulus, comme par exemple trop de graisse ou trop de sucre. La deuxième catégorie est pas d'assez de stimulus, comme trop peu d'activité physique. Et la troisième catégorie, des stimuli totalement nouveaux, comme par exemple la cigarette. Deux événements majeurs ont amplifié ces discordances. L'agriculture, qui a commencé il y a environ 10 000 ans, a changé radicalement notre alimentation et nos modes de vie. Puis, la révolution industrielle, encore plus récemment, a transformé même plus nos environnements. Ces changes ont augmenté l'obésité, les maladies cardiaques, les cancers, le diabète et plein d'autres maladies chroniques. Plus tard, notamment lors de ma dernière conférence du 31 octobre, j'expliquerai comment notre environnement alimentaire moderne favorise l'obésité. Mais un autre exemple de discordance avec les trop de stimulus est le carie dentaire. Les caries apparaissent avec les aliments riches en sucre et en glucides raffinés. Et ces aliments nourrissent certaines bactéries dans notre bouche, qui produisent ensuite de l'acide qui dissout l'émail des dents. C'est pourquoi le pourcentage de caries chez les premières agriculteurs est plus de deux fois plus élevé que chez les chasseurs-cueilleurs. Ça, c'est des données de l'Amérique du Nord. Un autre type de discordance provient d'un manque de stimulus. Le 24 octobre, j'examinerai comment le manque d'exercice est à l'origine de nombreuses maladies. Mais prenons maintenant un autre exemple, les fibres. Elles jouent un rôle important dans l'alimentation et nous avons évolué pour en consommer plus de 50 grammes par jour. Aujourd'hui, un Français moyen en consomme à peu près 16 grammes par jour, ce qui est insuffisant. Parmi leurs nombreux bienfaits, les fibres préviennent la constipation, réduisent le taux de cholestérol et de glycémie, préviennent de l'excès alimentaire et contribuent à la prévention du cancer du côlon. Et bien sûr, le monde moderne est plein de stimuli totalement nouveaux auxquels nous n'avons jamais évolué pour faire face. Parmi ceux, que nous tenons pour acquis, on trouve les chaises. Et je vois tout le monde ici, sont assis. Jusqu'à récemment, tout le monde s'asseyait par terre sur des rochers ou peut-être sur des tabourets. Puis, en 1859, oui, c'est la même année de l'origine d'espèce, cet gens, l'industriel Michel Tonnet, a découvert comment fabriquer en usine la chaise du café. Il y a quelques milles de ça en France, à Paris, oui. Et depuis, la plupart des humains passent environ 10 heures par jour assis sur des chaises avec dossier. Cependant, s'asseoir sur des chaises avec dossier cause des discordances. En effet, dans une chaise confortable, vous me semblez très confortable, oui, nous n'avons pas besoin d'utiliser les muscles du dos pour rester droit. De ce fait, de nombreuses personnes souffrent aujourd'hui d'une faiblesse des muscles du dos, ce qui accroît leur vulnérabilité aux lombalgies, le problème musculosquelettique le plus courant au monde. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres discordances importantes et nous les discuterons plus en détail plus tard dans les autres conférences. Ça nous amène à la prochaine principe. Quand on tombe malade, il y a des symptômes. Certains symptômes sont en réalité des adaptations. Prenons exemple une rhume causée par un virus. Pour vous rappeler, une adaptation est une nouvelle caractéristique naturellement sélectionnée car elle améliore le succès de reproduction. Un symptôme est une caractéristique qui indique un état pathologique. Tous les symptômes désagréables que vous ressentez, et moi ressentez aussi, la fièvre, le nez qui coule, la fatigue, etc., ne sont pas causés directement par le virus, mais par votre système immunitaire qui attaque le virus. C'est important car bloquer ces symptômes revient parfois à bloquer l'action du système immunitaire contre le virus. Un point connexe, est-ce que certains symptômes sont très difficiles à surmonter car ce sont des adaptations anciennes et puissantes. Par exemple, lorsqu'on suit un régime et qu'il entre en bilan énergétique négatif, cela déclenche une réaction de famine. Oui. Et dans une réaction de famine, on souffre alors de fatigue, d'inactivité et de stress. Ce sont des adaptations. Et ces effets stimulent à l'auteur l'hormone du stress, le cortisol, oui. C'est produit par le kidney, oui. Et le cortisol augmente l'appétit et favorise le stockage de graisse viscérale. Et à cause de ces adaptations puissantes et anciennes, il est très, très, très difficile de suivre en régime. OK. 4. Le prochain principe important à propos des adaptations pertinent pour la santé et la maladie est que toutes les adaptations impliquent des compromis. Tout a des coûts et des bénéfices. Rien n'est gratuit dans le corps humain. Exemple encore avec le cancer du sein. Pendant le cycle menstruel que vous pouvez voir ici, les femmes produisent des pics d'estrogène et de progestérone, il y a deux hormones. L'estrogène en rose, ici, a deux pics, voilà et voilà. Un à peu près le jour 10 de la cycle et l'autre dans la troisième semaine. Et progestérone, en bleu ici, a un seul pic pendant la deuxième partie. Ces hormones sont essentielles pour la fertilité, mais comme elles stimulent la division cellulaire, elles aussi augmentent le risque du cancer. De plus, comme l'évolution a favorisé toujours le succès reproductif, chaque fois que le corps dispose d'énergie supplémentaire, il augmente les niveaux d'estrogène et de progestérone. Le graphique à gauche ici, c'est une étude célèbre de mon collègue Peter Ellison Harvard qui a comparé des femmes en bonne santé faisant seulement 180 calories kilocalories d'exercice par jour avec des femmes sédentaires. Ça, c'est en rouge, c'est les femmes qui... je pense qu'il a fait de course à peu près 20 km par semaine, pas beaucoup, et des femmes sédentaires en blanc. Et comme vous pouvez voir, durant la deuxième moitié du cycle menstruel, les femmes sédentaires ont à peu près 50% plus de progestérone. Pour moi, ça, en rouge, c'est les femmes normales, et en blanc, c'est les femmes anormales. Et cela aide à expliquer le graphique de droite, une méta-analyse des effets de l'exercice sur le risque de cancer du sein au cours de la vie. Selon cette étude, oui, vous pouvez voir, les femmes qui marchent une heure par jour ont un risque de cancer de sein inférieur de à peu près 50%. Pourquoi si peu de gens le savent-ils? Et cela nous amène à le prochain principe, que notre corps est rempli d'adaptations qui sont accumulées au fil de l'évolution. Elles ne fonctionnent pas toujours bien ensemble. Une bonne analogie est celle du tiroir de cuisine où l'on ajoute sans cesse de nouveaux objets divers. Nous avons un tiroir comme ça dans notre cuisine et au bout d'un moment, ça devient un bric-à-brac. Oui? Notre génome est un peu comme ce tiroir. Seule une petite partie code vraiment pour des protéines. Le reste, c'est une accumulation de morceaux hérités au fil de milliards d'années. Parfois, ces morceaux entrent en conflit. Un exemple encore, le gène BRCA. On dit ça? En anglais, on dit BRCA. BRCA. Il augmente fortement le risque de cancer du sein. Pourquoi est-il resté dans nos populations? Parce que il y avait un avantage, oui, c'est à cause de l'évolution. D'après cette étude importante, avant la contraception, les femmes avec ce gène avaient en moyenne de 20 jusqu'à 50% d'enfants en plus. Encore une fois, la sélection favorise la reproduction, même si cela nuit à la santé. 6. Et l'évolution n'est pas terminée. Un principe encore important est que nous n'avons pas cessé d'évoluer, à la fois génétiquement et aussi culturellement. Beaucoup de gens pensent que l'évolution s'est arrêtée parce qu'elle est lente et que la technologie nous protège de la sélection naturelle. C'est vrai en partie, mais pas totalement. La sélection naturelle fonctionne toujours tant qu'il y a des variations hérédité et la reproduction différentielle. C'est comme la gravité, oui, ça arrive. Et avec 8 milliards d'humains, il y a plus de variations que jamais. Aussi, la culture n'a pas éliminé la biologie. On peut le mesurer. Dans la ville de Framingham, ça c'est Framingham, Massachusetts, c'est mile 6 du marathon de Boston, bien connu par moi. Des scientifiques suivent les habitants depuis 3 générations. Les données montrent qu'une petite sélection en faveur des femmes plus petites et plus rondes. Et on ne sait pas pourquoi, mais la sélection est très faible, mais c'est bien là. Autre exemple très très célèbre, le lactase. Après la domestication des animaux, dans au moins que 7 régions du monde, des mutations ont permis de dégérer le lait à l'âge adulte. C'est un bel exemple d'évolution culturelle qui entraîne une évolution biologique. Notre cas célèbre, le paludisme. L'agriculture en Afrique a favorisé les moustiques qui transmettent le paludisme et donc la sélection de l'anémie falciforme qui protège partiellement contre la maladie. Plus près d'ici, le feu et les vêtements, l'invention de feu et des vêtements ont permis aux humains de vivre dans des régions froides et grises comme Paris. Aujourd'hui, il faut dire. Cela a entraîné une sélection pour une peau plus claire. Ces exemples montrent que la culture continuait à façonner notre biologie. Et c'est aussi vrai pour le cancer du sein. L'augmentation des aliments transformés, ultra-transformés, et la baisse de l'activité physique ont un effet direct. Et ça nous amène au principe le plus important de la médecine évolutionniste, la discordance. Il faut dire, les discordances arrivent parce que l'évolution biologique agit lentement, mais l'évolution culturelle est rapide et forte. Pensez à notre alimentation. En seulement quelques générations, elle a totalement changé. Oui. Aujourd'hui, nous mangeons des aliments ultra-transformés qui nos ancêtres n'auraient même pas reconnus. Oui. C'est une supermarché française ici. C'est plus pire aux États-Unis. Et quand cela arrive, on parle de discordance. Encore une maladie qui est plus fréquente ou plus grave parce que notre corps n'est pas adapté aux nouvelles conditions. Comment reconnaître une discordance? On peut l'identifier et tester les hypothèses si on pose deux questions. Est-ce que le problème vient surtout d'un changement récemment de l'environnement plutôt que le gène? Et deux, est-ce que la maladie est moins fréquente dans les populations non industrialisées? C'est difficile pour parler en français. OK, un exemple simple que j'ai étudié peut-être un peu trop, les chaussures. Nous avons évolué pour être pieds nus ou porter des chaussures très simples. Aujourd'hui, nous avons des chaussures rigides ou étroites, oui, confortables, et le résultat, plus de pieds plats, qui sont rares chez des populations pieds nus. J'ai mesuré peut-être 1000 de pieds en Afrique, et c'est impossible d'avoir un pied plat dans des populations pieds nus. Le pied plat n'est pas dramatique, mais il illustre comment des petites discordances peuvent devenir très répandues. Mais moi et d'autres chercheurs avons identifié de très nombreuses discordances. Il y a beaucoup, et quelques discordances sont bien très graves. Les principales causes de maladies et de décès. Il faut dire que la plupart d'entre nous mourront dans cette chambre, mourront d'une discordance comme une maladie cardiaque ou un cancer. Ces discordances à l'origine de ce qu'on appelle la transition épidémiologique. Au cours des dernières générations, dans les pays comme la France ou les États-Unis, nous avons observé une diminution de décès dus aux maladies infectieuses et à la malnutrition. Et dans le même temps, nous voyons une augmentation des maladies non infectieuses, autrefois rares ou inexistantes. Pour illustrer cela, voici une comparaison écrite d'un ami de moi à Harvard, une comparaison des causes de décès en 1900 et 20 000. Il y a centaines d'années, les principales causes de décès étaient la grippe, la tuberculose et les maladies intestinales. Et maintenant, ce sont les maladies cardiaques et les cancers. Oui, ça c'est deux ou trois décès. Et cela nous amène au dernier principe, une nouvelle dynamique que j'appelle la disévolution. J'ai introduit cette idée dans mon livre « L'histoire du corps humain ». Pour expliquer, revenons aux chaussures. J'aime les chaussures et les pieds nus. Rappelez-vous que nous avons évolué pour être pieds nus et les chaussures modernes causent des problèmes comme les pieds plats. Cependant, au lieu de prévenir ce problème, nous en traitons les symptômes avec des semelles orthopédiques. Et cela nous permet de continuer à porter des chaussures qui causent les pieds plats. C'est un cercle vicieux. Et c'est ça la disévolution. Un cercle vicieux où l'on traite les symptômes de discordance plutôt que les causes. Même chose avec les caries que nous avons parlé. On mange du sucre, on abîme ses dents, puis on va chez le dentiste et le traitement nous permet de continuer à manger du sucre. Heureusement. La disévolution explique beaucoup de maladies pondères et elle rend la prévention difficile car les causes sont souvent difficiles à percevoir Ils ont peu ou pas d'effet sur le succès de reproduction et parfois les causes sont associées à des bénéfices à court terme, comme le sucre. Alors, que signifie tout cela pour la médecine? Pour répondre, revenons au cancer du sein. La première question, cancer du sein, est-il une discordance évolutive? Rappelez-vous que les discordances ont deux caractéristiques importantes. D'abord, ils sont rares et moins graves dans les populations chasseurs, cueilleurs et non industriels. Et deuxièmement, ils arrivent des interactions gènes et environnement dans lesquelles l'environnement et non les gènes a changé. Évidemment, sans la médecine moderne, il est impossible de savoir précisément, mais nous disposons de suffisamment de données sur les populations de chasseurs-cueilleurs pour savoir qu'elles sont très rarement atteintes de cancer. Et ce n'est pas parce qu'elles ne vivent pas assez longtemps, et ça, je vais discuter ça dans une prochaine lecture, une conférence. Nous avons également des preuves que le cancer était moins fréquent avant la révolution industrielle. Par exemple, le médecin italien Rigoni Stern a recueilli des données précises sur l'incidence du cancer du sein à l'hôpital de Vérone, en Italie. Sur 80 ans, moins de 1%, d'après lui, des décès étaient dus à ce cancer. Le Rigoni Stern a également noté que la plupart de ces décès concernent des religieuses. La deuxième caractéristique des discordances est qu'il arrive des interactions entre les gènes et l'environnement, dans lesquelles l'environnement et non les gènes ont changé. Et c'est certainement le cas des principaux facteurs de risque de cancer du sein. Les deux facteurs que nous ne pouvons pas modifier sont nos gènes et notre âge, oui. Mais les autres sont des aspects de notre environnement que nous pouvons modifier. L'obésité, la sédentarité, le diabète, l'alcool, le tabac, la fréquence des cycles menstruels et les radiations. En raison de ces facteurs environnementaux, et particulièrement de l'obésité, l'incidence du cancer du sein aux États-Unis a augmenté de 20% depuis 1970. C'est beaucoup de femmes. D'un côté, c'est déprimant. De l'autre, c'est une bonne nouvelle, car si nous ne pouvons pas changer nos gènes, il est possible de changer notre environnement. Nous pourrions réduire considérablement le nombre de cas de cancer du sein si davantage de femmes étaient physiquement actives, ne fumaient pas et ne souffraient pas d'obésité. Une perspective évolutive peut également nous aider à trouver des meilleures façons de traiter le cancer. Rappelez-vous que les cancers sont des exemples d'évolution qui tournent mal à l'intérieur du corps. Alors, quand nous essayons de détruire les cellules, nous aidons parfois des cellules résistantes et plus dangereuses. Une idée évolutionniste est donc de chercher à contrôler les cancers au lieu de les tuer. Par exemple, la thérapie adaptive consiste à ajuster les doses de chimiothérapie pour limiter la croissance d'une tumeur au lieu de tout détruire d'un coup. Une autre approche est de ralentir ou perturber les cellules pour qu'elles restent gérables. Mais la meilleure arme reste notre système immunitaire. Il a évolué depuis des millions d'années pour détecter et détruire les cellules cancéreuses. Si on est un organisme multicellulaire, les cancers arrivent, oui. Et les nouvelles immunothérapies qui entraînent les lymphocytes T et les cellules natural killer, je ne sais pas le mot en français pour ça, et j'aime le mot natural killer, oui, ouvrent des perspectives spectaculaires. Encore une fois, je dois souligner que la meilleure solution est toujours la prévention. On ne peut pas empêcher complètement les cancers liés à l'âge, mais on peut réduire fortement ceux liés à l'environnement. Alimentation plus saine, activité physique, moins d'exposition nocive, tout cela fait une vraie différence. Et voilà. Ce n'est qu'un début, mais j'espère que vous avoir montré que le médecin évolutionniste apporte des idées puissantes et présente un potentiel à exploiter. Et dans les trois prochaines conférences, nous appliquerons ces principes à l'alimentation, à l'exercice et à l'obésité. Et j'espère vous voir le 10 octobre pour discuter comment nous avons évolué pour manger presque tout, mais pourquoi certains régimes sont meilleurs que d'autres. Merci pour votre attention et encore, je suis désolé pour mon accent. Et je serai ravi d'essayer de répondre à vos questions, même si en français, il se peut que vous deviez parfois m'aider un peu. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.